La dernière fois que je me suis pris un procès verbal, c'était parce que la voiture que je conduisais n'était pas passée au contrôle technique dans les temps réglementaires. Le gendarme n'était pas très sympa, mais comme il portait l'uniforme, je n'avais rien à dire et de toute façon, il ne faisait qu'appliquer le règlement sans état d'âme. Le premier devoir de tout citoyen est de respecter les lois de son pays. Cette obéissance n'est pas un devoir envers un homme particulier, mais vis-à-vis de la fonction qu'il représente. On a le droit d'exprimer son désaccord face à des législations qu'on estime injustes, mais à condition de le faire selon les règles, et un croyant ne doit jamais participer à des actes de violence. En effet, il est d'abord citoyen des cieux, puis d'un pays. John Wesley, dont j'ai déjà parlé, qui est le fondateur des églises méthodistes, ne s'est jamais opposé au roi d'Angleterre ni même à l'église anglicane. Il a simplement annoncé la bonne nouvelle autour de lui. Éventuellement, des personnes influentes se sont converties en Jésus-Christ, comme par exemple William Wilberforce, qui était philanthrope et abolitionniste. Lui et d'autres de son gabarit furent à l'origine du grand mouvement de réforme contre le travail des enfants et pour la protection des ouvriers sur leur lieu de travail. Avec le temps, leurs efforts furent récompensés et de nouvelles lois furent votées qui protégeaient aussi bien les enfants que les ouvriers. Ce fut une véritable révolution, mais douce et dans le respect de la loi. Je commence maintenant à lire le troisième chapitre de l'épître de l'apôtre Paul à Tite. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Verset 1. Après avoir décrit la façon dont les croyants doivent être et agir dans leur milieu, dans leur église, et les uns envers les autres, Paul élargit le contexte et dresse une liste des comportements appropriés à des croyants qui vivent et interagissent avec une société où le paganisme règne suprême. Rappel à tous est un impératif présent qui pourrait être traduit par « rappel continuellement », ce qui n'est pas de trop, parce que les Crétois étaient notoirement dépourvus des sept vertus suivantes que tout croyant devrait pratiquer en milieu païen. Premièrement, il doit se soumettre aux autorités en place à tous les niveaux, depuis Monsieur le maire jusqu'à Monsieur le président de la République. Quand Jésus a déjoué la ruse des chefs religieux juifs qui lui avaient tendu un guet-apens, il leur a dit « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu ». Cependant, Jésus ne suggérait nullement que les taxes étaient justes, au contraire. Il savait fort bien qu'Auguste, le César de service, était un despote, surtout que c'est lui qui avait inauguré le culte impérial en se faisant passer pour un dieu. De plus, son effigie sur les pièces de monnaie n'était rien de moins que de l'idolâtrie. Pourtant, Jésus a déclaré sans équivoque aux Juifs qu'ils devaient payer l'impôt exigé par les autorités romaines. Les croyants sont dans l'obligation morale de se soumettre et d'obéir aux gouvernements humains sous lesquels ils vivent, et cela quel que soit le système politique. Cette règle ne peut être violée que s'il leur est demandé de faire quelque chose qui va à l'encontre des commandements de Dieu. Alors, ils doivent désobéir. C'est exactement ce que les apôtres Pierre et Jean ont fait quand ils ont déclaré au Conseil juif de Jérusalem « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Troisièmement, les croyants doivent être prêts à contribuer à la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire à servir les autres par amour et même s'ils sont hostiles. Je continue le texte. « Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. » Verset 2. Le mot « dénigrer » a donné « blasphème » en français. En quatrième lieu donc, les croyants ne doivent pas répandre de calomnie sur quiconque, pas même sur les officiels les plus corrompus, et ce n'est pas ce qui manque. En d'autres mots, on ne doit pas répéter les méchants propos qui circulent concernant un politicien véreux. Là, je dois dire que j'ai quelquefois du mal à tenir ma langue en bride. Cinquièmement, les croyants sont appelés à être paisibles. des conciliateurs. Ils ne doivent donc être ni querelleurs ni belliqueux. Sixièmement, ils seront courtois, doux et modérés. Et septièmement, aimables et respectueux. Ces comportements peuvent nous paraître exemplaires, mais pour Paul, ils n'avaient rien d'exceptionnel. C'était le témoignage normal d'un croyant devant tous les hommes. Et quand il a écrit ces lignes, il voulait bien dire tous les hommes, ceux qu'on aime bien, mais aussi les teignes. Le respect sincère des autres est une vertu spirituelle fondamentale. Je continue. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Verset 3. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul donne plusieurs listes de péchés propres aux non-croyants. Ici comme ailleurs, il décrit un potentiel de mal qui habite le cœur de tous les hommes dans leur état naturel dépravé et non régénéré. Le prophète Jérémie écrit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Certes, beaucoup répriment leurs pulsions tandis que d'autres se donnent entièrement à leurs vices. Cependant, au lieu de les critiquer, je dois me rappeler que si Dieu ne m'avait pas fait grâce en me tirant de mon fumier, je serais comme eux. En fait, les croyants ne sont nullement meilleurs que les autres, ils sont seulement pardonnés. Les incroyants, dit Paul, sont insensés dans le sens d'ignorants au sujet de Dieu et de ses exigences morales. Ils sont en révolte contre lui et égarés, c'est-à-dire trompés par l'esprit de ce monde dans lequel Satan mène le bal. Ils sont esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs, c'est-à-dire que le péché qui agit dans leur cœur a toute latitude pour s'exprimer. Ils sont aussi méchants. Ce mot décrit un caractère vicieux. Et si on ajoute à ce mélange détonnant l'envie, on obtient la haine pure et dure. Cette descente aux enfers qui se termine en fracas et par une haine féroce caractérise souvent des conjoints, des amis, des frères ou des hommes d'affaires qui se séparent. Je continue le texte. « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. » C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Versets 4 et 5. Ces paroles bienfaisantes rappellent l'action de Dieu qui nous a fait sortir de l'ornière dans laquelle notre condition de dépravation nous tenait prisonniers. Alors que dans le verset précédent, c'est l'homme qui est l'acteur, à partir d'ici, c'est Dieu qui prend les choses en main afin de sauver sa créature coupable. L'apôtre Jean écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Paul dit à Timothée « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans sa grâce, Dieu sauve ceux qui se confient en lui, non pas à cause de quelque acte de justice qu'ils auraient accompli, mais en vertu de sa bonté, de son amour et de sa pitié ou miséricorde. Ces mots pris ensemble expliquent ce qu'est la grâce. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit aux foules, en parlant de Dieu, qu'il est bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Dieu a également révélé son amour pour les hommes. Ce mot « Dieu » a également révélé son amour pour les hommes. Le mot « amour » a donné « philanthropie » en français et ici il signifie « amour, compassion ». Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Avoir pitié de quelqu'un conduit à lui faire grâce. La grâce est un acte de bonté qui pardonne la culpabilité de l'offenseur tandis que la pitié ou la miséricorde est un acte qui a pour but d'apaiser une souffrance. Dieu nous a sauvés, dit Paul, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Ce bain purificateur renvoie à la cuve de bronze qui, sous le régime de l'Ancien Testament, se trouvait entre l'autel des holocaustes et l'entrée du lieu saint du tabernacle, puis du temple. Cette cuve servait aux ablutions des prêtres. Concernant l'Église, Paul écrit que Jésus s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et Jésus a dit au chef religieux, qui s'appelait Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'eau représente donc la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise afin de purifier l'homme de ses péchés et de produire en lui la nouvelle naissance. Le croyant possède alors une vie nouvelle générée par le Saint-Esprit qui établit aussi sa résidence en lui. Je continue le texte. Cet Esprit l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 6. Ce verset mentionne les trois personnes de la Trinité. Le jour de la Pentecôte, à la demande de Jésus, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples et depuis il est présent en chaque croyant. Les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants sont infinies, mais ce n'est que dans l'éternité qu'ils en auront pleinement conscience et jouissance. Je continue. Afin qu'ayant été déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Verset 7. La caractéristique essentielle du salut est la justification par la foi seule. Lorsque quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, Dieu le déclare juste. Alors, il est sauvé et reçoit la vie éternelle qui devient son espérance dans le sens d'une réalité certaine, mais qui ne se réalisera pleinement que dans l'au-delà. De plus, en leur qualité d'enfants adoptifs de Dieu, les croyants sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Je continue. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 8. L'expression « c'est là une parole certaine » était courante à l'époque de l'Église primitive et Paul l'utilise à 5 reprises dans les épîtres pastorales. C'est la 3e fois que Paul ordonne à Tite d'enseigner ce qu'il lui dit. Ici, il doit insister fortement sur toutes les choses que Paul lui a écrites jusqu'à présent, c'est-à-dire la façon dont les croyants devraient être et se comporter les uns vis-à-vis des autres dans l'Église et envers le monde païen. La saine doctrine, l'enseignement authentique de la parole de Dieu est indispensable, mais les bonnes œuvres aussi, et les deux doivent aller de pair. La manière de vivre que l'apôtre recommande aux croyants a pour but de porter des fruits pour Dieu et pour faire avancer son royaume. Il faut bien remarquer que Paul s'adresse à ceux qui ont cru en Dieu et que ce sont eux qui doivent s'appliquer à accomplir des œuvres bonnes. Mais pour les personnes qui cherchent à effacer ou compenser leurs fautes par des bonnes actions ou des rites, elles perdent leur temps car aux yeux de Dieu et selon le prophète Ésaïe, tous leurs accomplissements ont valeur de chiffon dégueulasse et je pèse mes mots. Je continue le texte. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Verset 9. À cette époque, de nombreuses hérésies circulaient dans les églises parce que d'une part, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé, et d'autre part, le diable faisait des heures supplémentaires. Sous l'égide de rabbins mystiques, bien des passages de l'Ancien Testament et surtout les généalogies donnaient lieu aux interprétations les plus farfelues. Les fausses croyances étaient monnaie courante, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Voilà pourquoi les croyants doivent pouvoir défendre leur foi et leur vision spirituelle du monde, mais sans se laisser embarquer dans des discussions vaines et interminables. Au 1er siècle, c'était surtout les judaïsants qui étaient dangereux pour les églises parce qu'ils étaient comme des loups déguisés en agneaux. En effet, ils ne s'opposaient pas à la foi en Jésus-Christ, mais ils disaient qu'en plus, il fallait se conformer au rite de la loi de Moïse. Seulement, cette doctrine est aux antipodes du Nouveau Testament qui enseigne que le salut est un don de la grâce de Dieu qui s'obtient exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Or, la bonne et seule façon de faire connaître Jésus est de proclamer la vérité de la parole de Dieu et d'éviter d'argumenter contre des faux systèmes religieux ou philosophiques. Je continue le texte. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Versets 10 et 11. Tout membre d'Église qui ferait preuve d'insoumission, de rébellion ou d'esprit de discorde devra être exclu de la communauté des croyants. Les deux avertissements mentionnés correspondent aux règles de discipline énoncées par Jésus-Christ lui-même. Le mot grec pour division a donné hérétique en français. Par définition, ceux qui causent des scissions sont des rebelles qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu et aux responsables de l'Église. Ailleurs, Paul écrit « Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division » et égare les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. » Fin de citation. Je continue le texte. « Quand je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. » Versets 12 et 13. Selon sa coutume, Paul termine cette lettre en mentionnant des personnes de son entourage. Oubliant les judaïsants hérétiques, il cite certains de ses compagnons de route qui étaient des purs aussi bien au niveau de la doctrine que de la pratique chrétienne. Paul fait une double demande à Tite. Il voudrait qu'il vienne le rejoindre au plus vite et qu'il s'assure que rien ne manque à deux de ses collaborateurs. L'apôtre se sentait probablement seul et isolé, d'où son désir d'avoir Tite auprès de lui. Mais avant que ce dernier ne puisse quitter son poste, il devait être remplacé dans son ministère par Tychique ou Artémas. Nous ne savons rien de ce dernier, sinon qu'il devait être un homme fidèle et capable, puisque l'apôtre est prêt à lui confier la direction des églises de Crète. Quant à Tychique, il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il avait fait partie de ceux qui avaient accompagné Paul pendant une partie de son troisième voyage missionnaire. Et c'est lui qui avait apporté la lettre de l'apôtre à l'église de Colosse et probablement aussi celle adressée aux Éphésiens. À deux reprises, Paul appelle Tychique un serviteur fidèle dans l'œuvre du Seigneur. C'était un homme discret, mais sur qui on pouvait toujours compter. Il avait même remplacé Timothée comme responsable de l'église d'Éphèse. L'apôtre écrit à Tite qu'il a décidé de passer l'hiver à Nicopolis. À cette époque, il existait pas moins de 9 villes ayant ce nom qui veut dire « ville de victoire ». Mais le contexte semble pencher pour Nicopolis qui se trouvait au bord de la mer Adriatique sur la côte ouest de l'Achaïe, la province sud de la Grèce, un endroit rêvé pour passer l'hiver. Cette ville avait été fondée par Octave, petit-neveu et fils adoptif de Jules César. Plus tard, Octave prit le nom d'Auguste. Il est probable que c'est à Nicopolis que Paul fut arrêté et conduit à Rome pour son second emprisonnement. Ce triste événement eut lieu au moment où le fougueux Néron, crachant feu et flammes, avait organisé une persécution de grande envergure contre l'Église de Jésus-Christ. Quant à Zénas, le juriste, on ne sait absolument rien de lui. Par contre, Apollos est mentionné plusieurs fois et toujours sous un angle très positif. C'était un prédicateur juif particulièrement éloquent qui était originaire d'Alexandrie en Égypte. Malheureusement, certains de ses disciples qui s'étaient rendus dans l'église de Corinthe avaient constitué une des cliques qui divisait les croyants, ce qui affligeait beaucoup l'apôtre Paul. je finis le chapitre 3 de l'épître de Tite. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi, leurs vies ne seront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Versets 14 et 15. Paul termine cette lettre avec une dernière exhortation concernant l'amour fraternel. En quelques mots, il rappelle que le devoir des croyants est de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Seulement, nos sociétés capitalistes et libérales exercent une influence néfaste sur les croyants. Même si la doctrine reste saine, la pratique de l'amour fraternel a tendance à disparaître au profit d'un individualisme de bas étage. Alors, comme nous le rappelle Luc, souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».